Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier balado intitulé Stratégie et gestion des RH. Notre premier invité, c'est Robert Dutton. Il est connu du grand public comme ayant été l'ancien dirigeant de Renault, où il a fait passer le chiffre d'affaires de l'entreprise de près de 400 millions de dollars à près de 4,9 milliards de dollars. Comment expliquer ce résultat? On lui posera la question. On lui demandera aussi comment on fait pour devenir un acteur stratégique et est-ce qu'on peut l'être à tous les niveaux de l'organisation. Et puis, c'est quoi la stratégie dans le fond? Et quel rôle les ressources humaines peuvent jouer dans la stratégie? Rona, d'ailleurs, l'a baptisé la fonction ressources humaines, personnes et culture. Qu'est-ce qui a guidé cette décision? Et puis, on lui demandera aussi de nous expliquer les différences entre les différents enjeux ressources humaines et les enjeux d'affaires qu'il a pu connaître chez Rona. Rona nous expliquera également pourquoi les ressources humaines ont été vues comme étant un levier stratégique et on parlera finalement des fusions-acquisitions. Est-ce que la culture d'entreprise est un frein ou un accélérateur? Qui est Robert Dutton?
Moi, je suis actuellement professeur associé à HEC Montréal. J'enseigne et co-directeur du pôle entrepreneurial. Donc, j'enseigne au niveau du bac en management et j'enseigne à la maîtrise au niveau du leadership, la maîtrise régulière et la maîtrise exécutive. Et je suis aussi, comme co-directeur du pôle entrepreneurial, je vois surtout à la stratégie et à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Évidemment, ça, c'est mon rôle actuellement. Et auparavant, bien évidemment, j'ai été chef d'entreprise. J'ai une carrière de 35 ans dans une organisation seulement qui était Rona.
Parfait. Ben justement, vous mentionnez Rona. Le grand public vous connaît comme dirigeant de Rona. Vous avez fait passer le chiffre d'affaires de 400 millions de dollars à 4,9 milliards de dollars. Qu'est-ce qui explique ce résultat, Robert Dutton?
Je dirais que c'est un plan stratégique solide, exécuté par un groupe de femmes et d'hommes qui étaient engagés, dévoués, mobilisés, et qui ont réalisé ce plan-là dans une exécution qui était très disciplinée et rigoureuse. Donc, basée sur une vision qui est claire, des valeurs partagées, puis, je dirais, une passion, mais aujourd'hui, j'aime mieux le terme énergie que passion. Donc, avec une énergie vraiment à se consacrer à cette mission-là d'entreprise, au projet de l'organisation. Alors, je pense que la réussite, ça vient de ces trois points-là. La vision, une bonne planification, puis des personnes engagées.
Parfait. Faisons un retour après les débuts de votre BAA. Vous êtes tantôt passé d'un emploi d'été dans la quincaillerie familiale à employé au siège social, puis gestionnaire, cadre, jusqu'à être propulsé à la tête de la coopérative à 35 ans, si ma mémoire est bonne. Comment êtes-vous devenu cet acteur stratégique?
Écoutez, c'est assez curieux. Il faut dire que moi, j'étais quelqu'un de très timide, de très réservé, pas de confiance en lui. En fait, j'ai terminé mes HEC, moi, à 22 ans, avec la certitude que je ne ferais rien dans la vie parce que j'avais ces handicaps-là, du manque de confiance en moi, de ma timidité, et je m'étais convaincu que ma vie serait rien. Alors, j'avais décidé de prendre la relève de mon père à son magasin. Même si c'est un magasin familial, ma mère y était aussi. Elle disait, écoute, ça va être dur pour nous de te payer un salaire. Moi, je veux prendre la relève. Mais en fait, je n'avais pas nécessairement intérêt à prendre la relève. C'était surtout que c'était impossible pour moi d'aller travailler dans une entreprise. Curieusement, le premier jour de mon travail, comme là, je suis dans l'entreprise, pas comme un emploi d'été, mais pour prendre supposément la relève, il y a une réunion à la coopérative Rona le soir. Alors, évidemment, mon père m'y amène, je rencontre des gens. Puis, vous imaginez en passant que être dans une réunion avec plein de gens que vous ne connaissez pas, quand vous êtes timide, une soirée d'enfer pour nous, pour moi. Alors, et quelques jours plus tard, curieusement, le président de Rona m'a appelé et a demandé de me rencontrer. Puis, c'est quelqu'un qui était jeune, dynamique. Et puis là, il m'a dit, vous passez à mon bureau vendredi 10h. Évidemment, quand vous êtes timide et réservé, j'ai dit oui. Et je me suis retrouvé à son bureau. Et il m'a demandé en quoi j'avais étudié. Il m'a dit, j'ai entendu que vous aviez un diplôme universitaire, oui, en marketing ou HEC. En marketing, bien, ça va bien, on lance le département de marketing. Alors, quand est-ce que vous commencez? Et là, on a eu une longue discussion. Là, je résume ça très longue. Et il a mis tellement de pression que ben, j'ai dit oui. Et je suis rentré dans l'entreprise en me disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est terrible. Ils vont se rendre compte après quelques semaines que je suis vraiment pourri, que je ne suis pas bon, je suis capable de rien faire dans la vie. Et en même temps, mais dès les premières journées, je faisais des trucs. On me disait, ah, c'est bien ce que vous avez fait. Et j'ai eu un coup de foudre pour l'organisation. Ça, pour moi, c'était très important. Il faut se rappeler, c'est une coopérative. On est à la fin des années 70. Il y a un grand mouvement, je dirais, au Québec, au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau du monde des affaires où les Québécois francophones peuvent prendre leur place. Et évidemment, il y a beaucoup de chaînes canadiennes et américaines qui viennent s'installer au Québec dans notre secteur. Et les membres RONA, les membres de la coopérative, sont en train de vraiment bouleverser leur entreprise. Il y a une vingtaine de magasins en rénovation. Vraiment, c'est incroyable. Il y a une énergie, une passion. Le buzzword, c'est « faut battre les Anglais ». C'est de prendre notre place comme Québécois. Il y avait une atmosphère incroyable. Ce coup de foudre-là, j'ai aimé la mission parce que j'ai pris l'histoire de l'organisation aussi, une histoire que c'était beaucoup battu pour faire valoir d'abord d'être une coopérative, de se regrouper. Une entreprise qui avait beaucoup travaillé à développer l'industrie québécoise, la quincaillerie. Ils avaient été voir partout dans la province, ils avaient trouvé de petits fabricants, vraiment des artisans qui faisaient des clous ou de la peinture. Puis ils avaient dit, mais écoute, fais-en plus, puis nous, on va t'acheter. Alors, tout cet esprit-là, c'est vraiment venu me chercher. Et même si on ne parlait pas à cette époque-là de responsabilité sociétale des entreprises, on voyait que c'était quand même, d'être un bon citoyen corporatif, c'était quand même dans l'ADN. Alors, c'est une histoire d'amour, vraiment, avec une organisation que j'ai voulu, dans laquelle j'ai voulu grandir. Puis, sur lequel j'étais très... très engagé, je dirais. Je suis devenu aussi un gestionnaire de plancher, c'est-à-dire que quelqu'un qui était très près des gens. Autant je n'ai pas parlé pendant 22 ans, 23 ans de temps. Quand je suis arrivé chez Rona, je me suis mis à avoir une passion pour les personnes. Évidemment, je suis demeuré timide assez longtemps, ça c'est toute une autre histoire, mais j'ai aimé cette entreprise-là, j'ai aimé la planification stratégique, les personnes. Puis j'ai commencé à voir aussi que je poussais mes limites et j'ai aimé ça, d'être une personne qui pousse ses limites personnelles. Je suis devenu, quand on vous dit comment vous êtes devenu cet acteur stratégique, mais je pense que c'est cette volonté-là d'avoir la meilleure version de moi-même, d'avoir quelqu'un qui a une éthique importante, de l'intégrité, des valeurs qui sont non négociables. Puis je dirais aussi, avec le temps... Je réalise quand je pense à toutes ces années-là que vraiment aussi j'ai eu du courage pour faire face à ces défis-là que l'organisation avait.
Donc vous avez un peu des valeurs ou des types de comportements qui peuvent être associés à différents niveaux. Donc diriez-vous qu'être stratégique, ça peut se faire à tous les niveaux, même en sortant du BA?
Ah, absolument. Ben, je peux dire que... Il y a toujours de la stratégie dans tout. Là. Mais d'abord... Moi, ce qui m'a intéressé quand je suis rentré, puis probablement c'est dû au fait que mes parents avaient une quincaillerie Rona aussi. Donc, j'étais intéressé de savoir l'organisation dans laquelle on faisait partie était pour se diriger. Donc, je me suis beaucoup déjà intéressé à la stratégie au départ. Et j'ai un petit côté, je dirais, stratégique, politique aussi, parce qu'une organisation coopérative, c'est des membres, ils sont des clients, mais ils ont aussi un chapeau d'actionnaire. Et cette dimension-là m'a intéressé aussi, comment naviguer là-dedans. Donc, je pense qu'il y a de la stratégie, stratégie partout. Mais je dirais qu'avant, au départ, je pense que ce qui a été ma grande force, c'est ma capacité d'observation. Et ça vient du fait que j'étais timide, réservé. On développe, je dirais, une forme d'intelligence émotionnelle par l'observation, l'écoute. J'ai beaucoup observé, écouté l'organisation. Je dirais les 6 ou 7 premiers mois, j'étais vraiment comme si j'étais en classe tout le temps à regarder qu'est-ce qui se passait. Mais je trouve que ça m'a beaucoup aidé après ça à faire ma place comme personne.
Merci beaucoup. Ça nous aide aussi. Et ça nous aide en tant qu'étudiants à se rendre compte que ce n'est pas uniquement l'affaire de la haute direction, être stratégique finalement.
Mais quand on s'intéresse à la stratégie, je veux dire, la stratégie, c'est quoi? C'est un exercice d'équipe qui est mené évidemment par le chef de la direction en vue d'exécuter un rêve ou une vision. Donc, moi, au départ, j'étais intéressé, je posais beaucoup de questions. J'ai eu la chance de relever du président au départ, donc beaucoup de questions sur son rêve, sa vision, où il voulait aller. Je me suis beaucoup intéressé à l'environnement de l'organisation. Et donc, à comprendre l'industrie, à comprendre nos concurrents, qu'est-ce qui se passait, les éléments je dirais, économiques qui étaient pour nous influencer, les éléments de changement du comportement du consommateur, la technologie, comment elle était pour nous affecter. Alors, moi, je recommande ça à mes étudiants dans le cours de management. Intéressez-vous à l'environnement de votre organisation parce que, aussi, quand on est jeune, on a souvent raison sur tout. Puis, on va critiquer les gestionnaires, mais souvent, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte que on n'avait pas toute l'information on n'avait pas le portrait global. Et donc, pour moi, avant de critiquer, j'aimais mieux comprendre ce qui est le comportement global. Donc, je pense que la stratégie, c'est cette analyse-là exhaustive de l'environnement de l'entreprise, de ses forces, de ses faiblesses aussi, être capable d'avoir un regard, je dirais, franc, honnête sur son organisation, de prendre les faiblesses comme des opportunités de changement et d'en arriver à dégager un avantage concurrentiel, de façon à ce qu'on puisse se démarquer comme organisation, et assurer évidemment notre pérennité.
Parfait. Merci d'avoir surenchéri justement sur cette question-là. C'est quoi la stratégie? C'est une question qui est essentielle pour les étudiants de BA. Et aujourd'hui, vous êtes également administrateur de société. Quel rôle jouent les ressources humaines lors de l'élaboration et la mise en œuvre de vos plans stratégiques?
Écoutez, je dirais que les ressources humaines devraient être au cœur de l'élaboration des stratégies de la mise en œuvre, parce que je répète toujours une phrase, moi, constamment, c'est business is people. Les affaires, c'est un monde d'affaires, c'est un monde de personnes, les affaires. Donc, on devrait immédiatement placer les responsables des ressources humaines au cœur du projet de la planification stratégique. C'est ce que je faisais. Souvent même, le vice-président des ressources humaines, ou plus tard, on va appeler ça personne et culture, était souvent le maître d'œuvre de la planification stratégique. C'est-à-dire que moi, comme président, évidemment, c'est à moi de prendre des décisions, mais c'est lui qui était mon plus proche associé dans la mise en place du processus de consultation avec les équipes, avec les employés, l'organisation des rencontres qu'on avait avec pour savoir ce qui se passait dans l'environnement. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand je siège sur des conseils d'administration ou des comités aviseurs, j'essaie de vendre cette pratique-là. En toute transparence, c'est un aspect qui a développé par rapport aux entreprises. Ce n'est pas un réflexe des gestionnaires, malheureusement. Il y a encore des efforts, des préjugés je veux dire, à abattre, à démolir pour donner aux ressources humaines toute la place qu'ils méritent. Mais moi, je répète toujours aux chefs d'entreprise, on ne gagne jamais seul. L'entreprise, c'est un sport d'équipe. Donc, c'est important que les gens qui s'occupent du talent dans une organisation soient au cœur de la planification stratégique.
Et donc, on a évoqué la planification. Est-ce que vous auriez d'autres choses concernant la mise en œuvre maintenant? On parle beaucoup de gestion du changement, des plans stratégiques qui ont de la difficulté à être mis en œuvre. Vous avez une expérience ou quelque chose à ajouter concernant les ressources humaines?
Oui, ben, je pense que moi, je dis toujours qu'il y a beaucoup de bons plans, mais il y a beaucoup de mauvaises exécutions. Je pense que le fait qu'un plan stratégique a échoué, je dirais que oui, parfois, on peut s'être trompé dans les orientations, mais je pense que la grande majorité du temps, je n'ai pas trouvé d'études qui appuient ça, mais mon opinion de chef d'entreprise et d'entreprise que je rencontre, c'est vraiment l'exécution qui est la plus grande faiblesse. Puis, l'exécution, elle est faite par des personnes. c'est les personnes qui font l'exécution. Alors, il faut être capable d'en arriver à comprendre, à faire comprendre aux gestionnaires que c'est le talent qui va faire arriver la réalisation du plan stratégique. Donc, d'accorder beaucoup de temps et d'informations sur la gestion de ce talent-là, sur son développement aussi, pas justement sa gestion, son développement, son recrutement. Alors, pour moi, c'est le cœur de l'entreprise, c'est les personnes.
Chérona, vous avez notamment contribué à redresser les relations de travail, à instaurer les valeurs humanistes et à rebaptiser la fonction ressources humaines en personne et culture. Expliquez-nous ce qui a guidé votre décision.
Moi, j'ai toujours considéré que les personnes étaient l'actif le plus stratégique de l'organisation. Et de les appeler ressources, je trouvais qu'on associait comme ressources financières, ressources matérielles, ressources humaines. Je trouvais que ça distinguait pas l'importance que les personnes ont dans l'organisation, leur rôle qu'ils ont dans cette organisation-là. Alors, on avait aussi une réalité, c'est qu'on était dans une période de croissance très rapide. Il faut se rappeler qu'on a fait beaucoup d'acquisitions. Nous, on construisait beaucoup de magasins des grandes surfaces. Grandes surfaces, 10 000 mètres carrés, là, c'est 200 employés, 250 employés. Donc, dans cette croissance-là, pour nous, c'était important de passer le message que les personnes étaient importantes. Donc, de dire qu'on n'est pas des ressources, au même titre que la finance ou le matériel, on est vraiment des personnes. Et même si le nombre d'employés est très grand, parce que nous, il faut se réaliser qu'on est parti d'une entreprise qui avait 300, 400 employés, puis on est monté jusqu'à 30 000. Le message, c'était chacun des 30 000 employés est une personne pour nous, une personne unique qu'on veut reconnaître. Donc, le mot personne, la personne culture, c'est que justement, avec ces acquisitions-là, cette croissance-là, on avait développé une culture dans l'organisation. C'est-à-dire un modèle. La culture, pour moi, c'est comme l'ADN de l'organisation. Ça peut être, on peut dire aussi la philosophie. Mais c'est des choses auxquelles on avait beaucoup réfléchi, sur lesquelles on avait sorti les éléments qui, dans notre histoire, parce qu'on était quand même une organisation qui avait 60 ans d'histoire, c'était quoi les éléments qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qu'on avait fait quand on avait réussi, très bien réussi. Et donc, notre culture-là, c'était de mettre en évidence justement c'est notre mission, quelles sont les valeurs qui nous ont le plus souvent supportés, quels sont les éléments de notre culture, de la façon dont on gère. Par exemple, on avait beaucoup, chez nous, l'initiative était beaucoup valorisée. Donc, on donnait beaucoup d'espace pour l'initiative. Donc, le respect des personnes. Donc, on avait établi ça. Donc, notre culture, on voulait, même si on fait beaucoup d'acquisitions, on additionne beaucoup, notre culture, elle est précieuse pour nous. Et elle mérite d'être communiquée, puis elle mérite d'être valorisée. Alors, c'est ces deux éléments-là qui ont fait qu'on a pris cette décision-là d'appeler notre service « Personne et culture ». Et ça a été très bien reçu par les gens. Je pense que c'est pour eux vraiment, c'est un signe de reconnaissance qu'ils sont uniques, ils ont un talent, une personnalité, ils ont des savoir-faire, ils ont aussi des savoir-être, et que nous, on reconnaît ça. En autant que ça s'implique ou ça s'imbrique dans cette culture d'entreprise.
Parfait. Merci encore une fois, Robert. On va passer à la question 7. Tout au long de la session, nos étudiants vont être amenés à identifier des priorités d'affaires de certaines entreprises et à en dégager leur impact en termes d'enjeux ressources humaines. Au Québec, la pénurie de la main-d'œuvre est souvent citée. Parlez-nous d'un autre exemple d'enjeux ressources humaines qui vous empêchait de dormir en tant que dirigeant parce qu'elle impactait justement la réalisation de vos priorités d'affaires.
Moi, ce qui était ma priorité, c'était de la rétention du talent. Évidemment, il faut aller chercher, mais retenir le talent. Conserver nos meilleurs éléments, nos meilleurs joueurs ou joueuses d'équipe de façon à ce qu'ils puissent continuer à grandir. Moi, j'allais dire obsédé par le développement des talents. Probablement à cause de mon expérience personnelle, une personne timide, réservée, pas confiance en elle, qui réalisait que, quand on lui faisait confiance, parce que moi, on m'a fait confiance, je suis quand même arrivé dans une organisation où les gens m'ont fait confiance, ils m'ont aidé à pousser mes limites. Vraiment, j'avais réalisé des choses que je ne pensais pas de réaliser. Et c'était la phrase que j'aimais le plus entendre. Vous m'avez fait faire des choses que je pensais que je ne serais jamais capable de faire. Alors, pour moi, la rétention et le développement du personnel, C'est vraiment une priorité. Puis, comme on avait, je disais tantôt, beaucoup de croissance, je trouvais que ça donnait beaucoup d'opportunités à nos personnes de grandir avec cette organisation-là. Donc, tout le mapping du talent de l'organisation, les plans de développement des employés, ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment, vraiment une grande, grande, grande priorité. J'aimais ça quand... Puis, c'est un bon exemple. Hein, j'avais commencé à 22 ans comme analyste marketing. Je me suis retrouvé à 35 ans président. Donc, moi, je voulais refaire ce modèle-là. Je voulais que les gens aient la chance de dire, moi, je suis arrivé chez Rona et je grandis avec cette organisation. Alors, évidemment, ça implique aussi la mobilisation des employés qui s'approprient le projet d'entreprise et les employés qui, par ce qu'ils sont, donnent un sens à l'entreprise. Parce qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui pensent que l'entreprise donne un sens à la vie des employés. Là, on fait des workaholics et c'est une maladie mentale. Moi, ce que je veux, c'est que ces employés sentent qu'ils sont reconnus, ils sentent qu'ils sont respectés, et je dirais même qu'ils sont aimés. Ils vont donner du sens à l'organisation. Et c'est ça qui est important. Ça, je dirais que ça donne, pour reprendre un mot du philosophe Bergman, un supplément d'âme à l'entreprise.
Lorsqu'on consulte la documentation sur Rona, on prend conscience du caractère assez particulier de l'entreprise. Les personnes sont mises au centre de votre action. Lorsqu'on consulte la même littérature durant cette période, les dirigeants ne sont pas nécessairement toujours très élogieux à l'égard de la fonction ressources humaines. Qu'est-ce qui explique cela selon vous?
Je pense que c'est la peur. C'est la peur d'affronter les personnes, la peur d'être soi, la peur de montrer ses faiblesses, sa vulnérabilité. Les personnes, les êtres humains, c'est la dimension la plus complexe de l'entreprise. Ce n'est pas la technologie la dimension la plus complexe, c'est les êtres humains. Ça fait peur, c'est exigeant, ça demande des efforts et je dirais que la tradition de gestion par autorité fait que il y a beaucoup de chefs d'entreprise et de dirigeants à tous les niveaux qui sont mal à l'aise avec la gestion des personnes. Donc, soit ils vont la confier uniquement aux gestionnaires de services de ressources humaines ou ils vont être excessivement maladroits. Pour être un bon gestionnaire en ressources humaines, moi, je dis que ça prend la générosité. Puis quand je parle de générosité, je parle de la vraie, celle de soi, pas celle de l'argent de l'entreprise. Et ça, c'est... on dirait que les gens ne sont pas prêts à aller là. Je pense que dans l'avenir, le grand rôle des gestionnaires de ressources humaines, ça va être justement d'accompagner les dirigeants et les gestionnaires à apprivoiser la gestion des personnes. Puis, les amener à y trouver de la satisfaction. Je pense que c'est une grande mission. Mais souvent, moi, je fais beaucoup de consultations avec des entreprises. Le nombre de fois où j'entends « Ah, moi, j'aime ça l'entreprise, j'aime ça la planification, le développement, les rencontres avec les clients ou bien la négociation avec les fournisseurs, ça m'allume. Ah, mais si ce n'était pas des employés. Ah, ça, là! » T'sais, alors que moi, c'est ce qui me plaisait le plus. T'sais, et j'essaie de comprendre, mais quand je creuse un peu plus loin, ben c'est justement, c'est la peur parce que ça demande un effort, c'est une complexité, ça demande de comprendre les personnes. Et ça, c'est... Il y a un mur à abattre. Et ça commence par le dirigeant. Puis en vous et moi, c'est pour ça que je suis au HEC. Puis je m'enseigne au management et surtout à la maîtrise. Parce qu'à la maîtrise, il y a beaucoup de gens qui viennent faire des maîtrises parce qu'ils veulent en avoir plus sur la stratégie, la finance, l'avenir de la technologie. Mais en fait, ce qu'ils ont besoin pour continuer à grandir dans l'organisation, c'est de gérer des personnes. C'est la gestion des personnes, au plus que toute autre chose. Alors, je m'implique humblement dans ces cours-là, justement, pour en arriver à le démystifier ça, pour leur faire comprendre que la gestion des personnes, ça commence par eux. Comment eux, ils vont se situer là-dedans, puis c'est quoi leur peur, qu'est-ce qui fait qu'ils ont des blocages, qu'est-ce qui fait que pour eux, ils n'aiment pas ça. J'ai de la misère à le comprendre, tu sais, c'est curieux parce que c'est tellement à l'antipode de ce que je suis, mais je réalise que, en tout cas, je le vois en maîtrise, je réalise que quand on aborde la question, on l'affronte, ben ça aide les gens. Mais il faut se rendre compte que Je reviens sur la maîtrise et puis je ne veux pas casser du sucre toute l'entrevue sur la maîtrise, mais il reste que dans les cours de maîtrise, on a enlevé tous les cours de gestion de ressources humaines. On a changé ça pour des cours de leadership, donc apprendre aux gens à mieux se connaître et tout ça. Oui, tu peux être un bon leader, apprendre à te connaître, mais il faut que tu apprennes à connaître les autres aussi, tu sais. On appelle tout ça, on va appeler la collaboration avec les gens. Et moi, je me bats actuellement au HEC pour qu'on revienne dans ces programmes-là avec un cours de gestion de ressources humaines. Parce que c'est la dimension la plus importante. Et les statistiques et les entreprises qui réalisent, qui réussissent bien, très bien, et qui réussissent dans une longue période de temps, c'est une entreprise qui a une bonne gestion des personnes à l'intérieur.
Oui, je pense que c'est intéressant, Robert, et en aparté, je pense que la critique qu'on peut adresser parfois à la GRH, c'est qu'elle est encore trop dans les champs d'activité technique. C'est-à-dire qu'on parle de relations de travail, on parle de rémunération, on parle tout ce qui est technique de ressources humaines et pas nécessairement la gestion des personnes en tant que telles et la différence que ça peut avoir. Mais en tout cas,
ils sont devenus très financiers. Ils gèrent les ressources humaines. Je pense qu'ils sont obsédés par le vice-président de finance dans les organisations, qui a beaucoup trop d'impact. Tu sais. Et tout ce qu'on demande aux gens de ressources humaines, c'est d'avoir un return on investment sur ce qu'ils font. Et ça ne se calcule pas comme ça.
Merci Robert pour celle-là. Celle-là, je vais la garder parce qu'on a un article sur actifs ou dépenses et je pense que ça va être intéressant.
C'est pas vrai. C'est surtout que plus vous êtes dans une entreprise, si l'entreprise est publique, on sait qu'il demande beaucoup des résultats aux 3 mois. Là. Donc, tu sais, les financiers, c'est toujours le fameux trimestre. On ne peut pas avoir des investissements dans le développement de nos personnes, la formation, la mobilisation, et qu'on a un impact après 3 mois ou à chaque mois. Alors, le développement des personnes, ça se fait sur une plus grande période. Donc ça, il y a un grand, grand, grand... préjugé ou un paradigme à abattre par rapport à ça. Il ne faut pas que les gens de ressources humaines tombent dans ce panneau-là. Alors évidemment, ça va leur demander beaucoup d'efforts de persuasion, mais je pense qu'avec le temps, ils vont réussir à prouver que ce qu'on fait, ça demeure ce qu'ils font. Ce qu'on fait en ressources humaines, ça demeure un investissement à long terme dans l'organisation.
Parfait, merci. On passe à la question 9. Plus tard dans la session, nous parlerons notamment de fusion et d'acquisition, ainsi que de culture d'entreprise avec les étudiants. Sur le plan stratégique, vous avez mené une série d'acquisitions, notamment celle de Renault Dépôt. Diriez-vous que la culture est un frein ou un accélérateur?
Pour moi, c'est un accélérateur. Notre culture et nous, notre culture et surtout nos valeurs étaient non négociables. Lorsqu'on a fait des acquisitions, au départ, dans l'équipe d'acquisition, habituellement, c'est uniquement des gens de finance. Nous, on impliquait le vice-président de ressources humaines ou personnes culture. Notre objectif, c'était qu'ils accompagnent les gens de finance pour comprendre la culture de l'organisation. On voulait connaître cette dimension-là parce qu'on savait une chose, que si on fait la négociation et si ça se termine et on fait l'acquisition, on va avoir un plan d'intégration de cette organisation-là. Parce que les acquisitions, c'est beau, c'est glamour, ça donne beaucoup de visibilité. La journée de l'annonce, là, ça fait une très belle conférence de presse. Sauf que le vrai défi, ce n'est pas de l'avoir négocié, c'est une étape. Le vrai défi, c'est de l'intégrer. Donc, et nous, ce qui est important, donc, c'est de savoir quel type d'organisation on portait acquéreur, comprendre la réalité et comprendre de toute façon c'était quoi les différences et savoir dès le départ où on aurait à travailler pour leur faire comprendre notre culture à nous. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès qu'on avait annoncé la transaction, parce qu'on annonce toujours la transaction à peu près 1 mois avant la clôture, déjà on mettait en place un comité d'intégration de façon à comparer nos modes de travail, comparer nos procédures, nos processus, et aller chercher dans l'entreprise qu'on acquiert les meilleures idées possibles pour pouvoir les impliquer chez nous. Donc, on a toujours appris des acquisitions. Peu importe la taille de l'entreprise, parce qu'on a fait des acquisitions d'entreprises qui faisaient 850 millions de chiffre d'affaires, comme Renault Dépôt, mais on a acheté aussi qui faisait 25, 40 millions. Mais à chaque fois, on apprenait. On mettait en place la première journée là, de l'acquisition. Moi, je me rendais dans l'entreprise pour rencontrer les employés, pour transmettre c'était quoi notre culture, c'est quoi nos valeurs, pour que les gens comprennent que aussi, dès le départ, que pour nous, les personnes, c'était important. Alors, ça a été un accélérateur parce que ce qu'on s'est rendu compte après les deux ou trois plus grosses acquisitions, c'est que le marché canadien était consolidé. Il y avait des propriétaires d'entreprises qui nous sollicitaient et qui nous disaient, moi, je veux vendre mon entreprise, mais je veux la vendre à Rona parce que je sais que Rona traite bien les personnes. Puis moi, je suis un chef d'entreprise, j'ai bâti cette organisation-là. Je veux que mes gens soient bien traités. Parce que là, moi, je veux partir avec un magot d'argent, mais je ne veux pas que mes gens se sentent abandonnés. Je sais qu'on a, vous respectez les personnes. Donc, ça nous a amené des dossiers d'acquisition qui étaient très intéressants. Et puis, d'avoir des gens qui étaient dévoués, propres de nos valeurs. Mais, pour revenir en clôture, là, la première rencontre avec les employés, j'allais personnellement, moi, comme président d'entreprise, les rencontrer, puis expliquer nos valeurs et notre culture de l'organisation, notre histoire, d'où on vient. Je pense que ça nous a permis de... Chacune des acquisitions, on en a fait 40 dans un espace de 11 ans, chacune des acquisitions a été profitable. Je pense que le plan d'intégration qu'on avait, puis notre respect de leur culture, de leur apport, la transmission de la nôtre, ça a été un accélérateur au succès.
Et quand on écoute le narratif dans certains reportages que j'ai pu consulter sur la vente de Rona, c'est justement ça que les marchands disaient qu'il manquait. C'est ce côté où on gérait des personnes et non plus des numéros ou des chiffres. Le fait qu'ils étaient impliqués, le fait que c'était une culture coopérative, le fait que c'était... On reconnaissait la valeur qu'ils apportaient, on les reconnaissait en tant qu'individus. Et c'est ce côté-là, quand j'écoutais les reportages ou que je consultais les médias sur ce que disaient les marchands, pourquoi ils se sentaient malheureux, ou pourquoi certains se sont désaffiliés, c'était souvent ce qui ressortait dans le narratif.
Oui, je rencontre pas beaucoup d'employés, tu sais, d'ex-employés ou d'employés qui sont là ou d'ex-employés parce que je veux pas rester dans cette mouvance-là, là, mais ça me fait toujours rire parce que les gens me disent « Ah, tu sais, Robert, les acquéreurs, ils ont tout démoli ce qu'on avait bâti. » Et pourtant, le centre de distribution existe toujours, le siège social existe toujours, les magasins existent. Donc, je réalise que ce qu'ils ont démoli, c'est la culture de l'organisation. Et les employés étaient vraiment très mobilisés. Un des éléments qui les mobilisait le plus, c'est tout notre programme de développement durable. Ils étaient très fiers de ce qu'on faisait. Tu sais, puis, le fait qu'on les impliquait beaucoup, ça donnait du sens. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sens. Personnellement, moi, et je travaille encore sur ce qui me donne du sens, mais je travaillais aussi beaucoup que, tu sais, on ne vendait pas des clous, nous. S'il y a-tu quelque chose de plus plate de travailler pour une organisation qui vend des clous? Tu sais, nous, on était dans le secteur de l'habitation et on aidait les gens soit à résoudre un problème ou à réaliser un projet qui était un de leurs rêves. Tu sais. Puis on essayait de le faire avec le plus grand sens des responsabilités sociétales qu'on pouvait avoir. Encourager les fournisseurs canadiens, québécois, avoir un programme de développement durable dans la protection de l'environnement, l'écologie, tu sais, des politiques comme de ne pas acheter de bois qui n'était pas certifié, notre programme de réduction des gaz à effet de serre, notre implication sociale avec la Fondation Rona ou notre programme qui s'appelait Bâtisseur du Nouveau Monde où chaque employé, chaque année, devait prendre un engagement pour changer le monde. Un petit engagement, mais un petit engagement pour dire qu'il va faire son effort soit en environnement. Alors, tout ça donnait du sens. Et je me souviens que les employés souvent me disaient, moi, je fais pas juste, j'ai l'impression que je ne fais pas juste mon travail chez Rona, ma job. J'ai l'impression que je participe à quelque chose de plus grand. Et ça, le sens est excessivement, pour moi, c'est extrêmement important. Je pense que c'était ça qui a fait la réussite de Rona, qui a fait aussi que cette croissance-là phénoménale de multiplier le chiffre d'affaires par 12 en l'espace de 7 ans. Et avec réussite, en continuant d'être profitable, c'est justement parce que on avait cet engagement-là de nos employés.
Que leur recommandez-vous afin qu'ils puissent réussir cette transition en tant que futur professionnel des RH?
Moi, je dirais que la première, si je terminais mon bac ou ma maîtrise ou mon DESS ou peu importe, là, ma préoccupation, c'est de choisir la bonne entreprise. Il faut à ce moment-là être capable, je dirais, comme personne, de définir ses valeurs. Ce n'est pas une réflexion qu'on a, mais je pense que c'est important de vérifier qu'est-ce qui est primordial pour nous, qu'est-ce que je ne suis pas prêt à négocier. S'assurer que l'entreprise dans laquelle on va choisir ou les entreprises qu'on sollicite, on va être en conformité avec nos valeurs. On va être plus heureux, puis l'entreprise va être plus heureuse aussi. À la rigueur, je dirais même, là, c'est quoi ta mission dans la vie? Qui s'intéresse à l'environnement des entreprises, qui observe leur culture, quand ils vont rentrer, qu'ils soient des observateurs, comme je disais tantôt, puis qu'après ça, qu'ils s'engagent. Donc, les chefs d'entreprise, et au Québec, on a 98% des gens travaillent dans des entreprises de moins de 100 employés. On a une grande culture entrepreneuriale, donc les gens vont travailler. Les chefs d'entreprise, ils aiment ça quand ils sentent les gens qui sont engagés. Donc, ils sont près d'eux. Donc, ça va être important. Puis, le dernier conseil que je dirais, c'est continuer d'apprendre. Peu importe le diplôme dans lequel que vous avez reçu ou que vous allez recevoir, l'important pour continuer de grandir, comme gestionnaire, comme cadre, comme dirigeant et comme personne aussi, c'est d'avoir la volonté de toujours vouloir apprendre.
Merci Robert Dutton.
Bienvenue.